Amis de la communique, bonjour, bonjour Thierry Ross.
Bonjour Dan Leclerc, un peu de bruit autour de nous.
Mais c'est normal, c'est la communique autour du zinc, sur le zinc et sur la table. Aujourd'hui, nous sommes au Café Broglie.
Café Broglie à l'heure de la nouvelle semaine, à sortie de Shabbat.
Voilà, Shavuatov donc.
Shavuatov.
À nos Shavuatov. Et quelle est donc cette voix que nous venons d'entendre ? Il s'agit d'un personnage éminemment connu dans le monde de la gastronomie judéo-alsacienne. Il nous vient directement du Haut-Rhin, Jacques Geismar, bonjour.
Bonjour.
On est très heureux de vous recevoir ici.
Des goûts de vore, parce que chez nous on dit goûts de vore.
C'est vrai. Reprenons les choses comme il se doit. Jacques Geismar, un produit alsacien, haut-rhinois. Nous avons une question traditionnelle à la communique, Thierry Rossin. Quelle est-elle pour notre invité, Jacques Geismar ?
Jacques Geismar. Alors, je vais le dire avec l'accent barinois.
Haut-rhinois.
Haut-rhinois. Qui êtes-vous et d'où venez-vous ?
Ah ! Je dois répondre en alsacien, je peux.
J'ai vu, en tapant Jacques Geismar sur Google, on tombe sur la généalogie des Geismar. Alors, on va peut-être commencer par là.
Ah, bon. Alors, moi, Jacques Geismar, je viens de Turquem. Voilà, donc toute ma famille est de Turquem. On remonte à 1784. Grosso modo, où on est arrivé à Turquem. Et depuis ce jour-là, ils sont d'abord marchands de bestiaux, bouchers, puis par la suite bouchers charcutiers, et puis et toujours dans la même maison, la même lignée de père en fils.
Incroyable.
Puis moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai mon fils Benjamin qui, il y a 2 mois, est rentré
dans l'affaire,
et puis qui commence tout doucement à... Je pourrais bientôt prendre ma retraite. Enfin bon, je crois pas.
C'est-à-dire qu'il y a aussi des Geismar à Mackenheim ?
Oui, il y a des Geismar à Mackenheim, il y a des Geismar à Col de Grüssenheim. Alors ceux de Colmar, oui, on se retrouve, mais on se retrouve tous à peu près sur le même marbre à un moment ou à un autre. Puis il y a aussi eu des Geismar qui ont immigré à Paris et qui ont beaucoup fait parler d'eux en 68.
Ah, les Geismar ?
Ah, les Geismar, oui, absolument,
train,
à Paris.
Les ferroviaires.
Non, les ferroviaires, c'est les Colmariens. Ils sont de Vincenheim. Hein. Ceux-là, ils sont.
Ah, on ne confond pas Vincenheim avec Turquheim. Hein.
Non, ceux-là, ils sont bien vers chez nous. Je parlais du 68 art Alain Geismar qui, à l'époque.
Jacques, est-ce que vous voulez boire quelque chose ?
Ben, avec plaisir, un café.
Alors, on va prendre un petit café. C'est ça, la communique en direct sur le zinc. Nous sommes toujours sur le pont. Et une paire de ciseaux pour ouvrir le magnifique pickle flesh que vous nous avez amené, mais dont on va parler dans quelques minutes. Alors, les Geismar donc de Colmar, de Vincenheim, de Turquheim.
Oui, on se retrouve tous à peu près dans le même.
On va peut-être un tout petit peu élargir le d'où venez-vous par les Juifs du Haut-Rhin que dans
tout
le
Bas-Rhin,
je ne veux pas dire qu'on ne les connaît pas parce qu'il y a beaucoup d'antennes, mais cependant, quel est le berceau du judaïsme haut-rhinois ?
Vincenheim. Vincenheim, qui était le siège du consistoire jusqu'avant la guerre, puisque Colmar n'est devenu le siège du consistoire qu'après la guerre.
Ça, je ne savais pas.
Si, Vincenheim était le siège du consistoire. Vincenheim, avec le fameux rabbin Katzenbogen, dont on a fêté il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus combien de anniversaire de sa naissance, et qui a été l'interlocuteur de l'État à l'époque, quand les Juifs sont devenus des citoyens libres. Voilà.
Sous Napoléon.
Mais c'est vrai que bon, il y a Turquem, mais il y a Vincenheim. Turquem, c'est le centre du monde, mais c'est Vincenheim, le berceau de la plus grosse communauté dans le Haut-Rhin.
Qu'est-ce qu'il faisait, Vincenheim ?
des bestiaux, du blé, du grain.
Bah oui, bah tous les mêmes métiers que faisaient les Juifs dans toute l'Alsace, c'est-à-dire du commerce, du colportage, du tissu, du blé, il y avait un marchand du côté de Hattstadt, il y avait un marchand de vin, enfin bon.
Votre tout, café tout. Est servi, Jacques.
Merci.
De vin.
Oui, voilà, il y avait des marchands de vin, il y en avait qui faisaient de la ferraille, d'autres qui faisaient. Mais bon, c'était toujours lié à ces métiers. En étant enfant, c'est vrai que je me rappelle que quand on allait à la Choule, à Winsenheim, on avait encore qui faisaient. Donc c'était encore le métier, qui était encore colporteur, et qui se promenait un peu partout dans la Baroche, en-dessus, sur Orbet, etc.
Ça vous souvient de tissus. Ça, c'est mes souvenirs d'enfance. Donc ça, on est en quelle année? Dans les années.
Dans les années. C'était aussi au millénaire dernier, pardon.
Au millénaire dernier.
C'était dans les années 65, 66.
Ouais, que Freddy Raphaël rapporte très bien dans son livre.
Absolument.
Sur les Juifs d'Alsace.
Voilà, et Freddy nous fait Freddy Raphaël nous fait le plaisir de venir faire une conférence à Turquin dans le 4 mars sur le bien-vivre entre les différentes communautés. Alors ça nous fait doublement plaisir parce que Freddy est sa famille, sa maman est de Turquem et lui, je crois qu'il est né à, oui, il est né à Colmar et sa maman était de Turquem.
Alors Freddy, si tu nous entends, un grand bonjour.
Salut toujours.
Oui, j'oublierai pas d'aller te chercher à la gare, promis.
D'ailleurs, je peux pas la raconter en alsacien parce que je n'ai pas ni le talent et je ne sais pas si nos auditeurs comprendront, mais dans le livre de Freddy Raphaël qui rapporte cette vie pauvres, des villages pauvres, des communautés juives très pauvres, où les colporteurs allaient de village en village. Et il y a deux juifs devant la synagogue qui sont en train de s'engueuler en alsacien. Et il y a un non-juif qui passe et qui dit « Qu'est-ce que vous avez, vous deux ?» Et ils répondent « Nous, pas grand-chose.
» Elle est magnifique.
Mais c'est vrai qu'ils étaient complètement imbriqués dans cette culture du village, ils vivaient. Alors, juste pour l'anecdote, à Turquem, il y avait trois Jules Geismar.
Trois Jules Geismar.
Les trois vivants avaient à peu près le même âge et ils les avaient différenciés. Donc en alsacien, il y en avait un qui s'appelait le Lompachul, parce que Lompa, c'est les chiffons, et donc son job, c'était il ramassait des chiffons, de la ferraille, du lapin, voilà. Donc c'était lui, il l'avait appelé le Lompachul, le Jules Chiffon. Après ça, il y avait un autre qui était un peu roux, donc il l'appelait le Jules Rouge. Donc le Rotul, absolument. et mon arrière-grand-père, lui, il s'appelait Plorchul. Parce que sa mère avait épousé un Bloch en deuxième noce, donc c'était le Plorchul. Mais il n'y avait plus aucun qui s'appelait Geismar. Ils avaient tous des sobriquets et on arrivait à les reconnaître comme ça.
C'est comme à Strasbourg, on avait tous ces docteurs Meyer. Il y avait le Knorr-Meyer, le Herz-Meyer.
Voilà, absolument. Mais, non, c'est vrai que à Colmar, on avait le Bouton Lévy, etc. etc. donc il était bercier. Enfin, il avait une bercerie, etc. Donc c'était vrai.
C'est truculent. Truculent avec beaucoup de nostalgie.
L'Alsacien est truculent. Et l'Alsacien du sud de Colmar et de Thuram, ce n'est pas la même chose que l'Alsacien du nord. Même dans les accents.
Non, ni dans les accents, ni dans les mots. Ni dans les mots, il y a des choses qui changent complètement. Même dans les dénominations de saucisses. Si on prend par exemple une saucisse de viande.
Fleischwurst.
Fleischwurst, chez nous. À Mulhouse, Teckwurst.
Ah, c'est Teckwurst à Mulhouse.
Ouais.
Mais
là, on est à 50 km de différence.
Il y a toujours eu cette rivalité, pas méchante, mais une rivalité quand même au Rhin-Barin.
Absolument, mais la grande Alsace, c'est quelque chose de très bien, mais surtout le Haut-Rhin, quoi.
Est-ce que ça se...
Attention, hein, parce que sinon, je vais venir avec du Grand Est, hein, je vous préviens.
Alors, est-ce que dans les communautés haut-rhinoises, barinoises, est-ce qu'il y avait aussi ces conflits?
Non, je crois pas.
Compétition, on va dire.
Oui, non, je crois pas que c'était là. Ils étaient tous confrères et des fois beaucoup concurrents, mais... Bon, c'est
pas plus que ça.
Non. J'ai d'ailleurs le plaisir de siéger au consistoire central avec votre homonyme de Colmar.
Qui est le frère à mon père.
Voilà. Et
qui est né aussi dans le centre du monde. Il est de Turquie.
Et les Alsaciens au consistoire central sont tous ensemble, assis l'un à côté de l'autre.
Ah, c'est bon sang de saurait mentir.
Et après, il y a les Messins.
Il en faut aussi. Il en faut aussi.
Oui, bon. Mais c'est vrai que, comment je vais dire, toutes ces sensibilités dont on évoque là maintenant, on est sûrement les pas les derniers, mais les avant-derniers peut-être à avoir connu ça. Aujourd'hui, le brassage avec l'Afrique du Nord, etc., etc. Donc on est plus maintenant dans la choucroute couscous que dans le couscous choucroute. Moi, j'ai deux appartenances. Hein. J'ai Haut-Rhin, Bas-Rhin, parce que ma grand-mère maternelle est de Balbronne.
Ah oui, près voilà. De, mais bien sûr.
Et son patronyme?
Weil.
Weil, oui.
Elle est la fille de Totter Le Weil, boucher à Balbronn. Totter
Le Weil. Ah, j'adore.
Et les quand on discute, ils descendent, c'est des Totter là.
C'est Totter.
C'était comme alors, ça. Vous nous dites que Benjamin est rentré dans l'affaire. Est-ce qu'il a, vous avez su lui transmettre ces traditions, parce qu'on est à peu près de la même génération, vous et moi, mais donc on est encore très imprégné, parce que quand on était petit à l'école, on parle alsacien, dans les commerces, on parle alsacien, dans les grandes villes. Est-ce qu'il a su capter ce patrimoine culturel et judéo-alsacien en fait?
Oui, parce que depuis qu'il est tout petit, tous les CDRIM, toutes les Rosh Hashanah, tout se passait chez mes parents. Donc on a gardé les traditions culinaires surtout. Donc c'est ce qui rassemblait absolument les mots de Knepflech. Et la carpe doit être. Alors les mots de Knepflech, dur ou pas dur?
Nous c'est pas dur. Chez nous c'est pas dur.
Maintenant les matzeball et le pickle fly c'est le pastrami.
Alors justement maintenant
pastrami ne découle du pickle fly.
C'est juste une question d'épissage. Plus ou moins.
Oui non mais en 70 lorsque nos gentils Alsaciens sont passés de l'autre côté de la
De l'Atlantique.
Ils ont emmené leur savoir-faire, c'est-à-dire ils faisaient du pickle fly et ils l'ont mis au goût du jour. Et la preuve, c'est que ceux qui ont les cats, les vites, enfin, tout ce qui fait aujourd'hui du pastrami à New York, c'est pas des Bretons. Hein.
Non. Mais, alors, est-ce que vous connaissez cette blague que j'ai entendue hier qui est délicieuse? C'est un rabbin qui rentre chez Geismar à Turkheim et il demande du pastrami. Alors, Jacques passe le bloc de viande à l'épitome, à la trancheuse, et puis une tranche, deux tranches, alors le rabbin dit, vas-y, encore, trois tranches, oh, allez, encore, 10, 15, 20, 25 tranches, il dit, celle-là.
Oui, non, mais c'est. Mes souvenirs d'enfant, parce qu'on a toujours eu de. Oui.
Racontez-nous, Jacques Gaïs. Nous, on aime bien la communauté, les souvenirs d'enfance.
Mon père avait, on avait toujours de. On faisait toujours crèche nos sacrifier, pardon.
J'allais faire la traduction pour
ceux qui,
nos auditeurs.
Pour ceux qui ne parlent pas comme. Comment disait Germain Müller, Wetteschnorvel Kvokseich, hein, c'est ça? C'est ce qu'il disait. Bon, c'est mais pour, quand les bêtes étaient. On faisait toujours sacrifier nos bêtes à Colmar. Et on allait chercher le chorette, c'était toute une histoire. Après, j'avais le droit de gonfler le poumon, parce qu'il fallait que le poumon soit parfait pour
ce qui est toujours le cas aujourd'hui.
Cachère.
D'ailleurs, c'est un débat, on peut en parler. Hein.
Oui, c'est l'objet actuel. D'une autre émission.
On est en pleine élection municipale où c'est un sujet sur le bien-être animal
le sujet, il n'est même pas municipal, le sujet, il est national, il est international.
Bien sûr.
Avec L200, je ne sais plus comment il s'appelle, là, ceux qui
L214,
qui a encore mis une vidéo il n'y a pas longtemps.
Sur les veaux.
Oui, mais. Bon, après, c'est totalement partial, parce qu'aux images, on peut leur faire dire ce qu'on veut.
On est tout à fait d'accord.
Pour ceux qui sont des spécialistes, ils comprendront. Mais oui, on gonflait les poumons à la pompe à pompe à vélo. Là. Moi, j'avais le droit de pomper et
je regardais.
Et puis quand la bête était cachère, c'était fabuleux, parce qu'on pouvait faire des longues virches avec les...
Avec les saucisses de poumons que nous rêverions d'avoir en cachère. Mais vrai, des saucisses de poumons, du mou de poumons, c'est extraordinaire.
Oui,
ça.
Des saucisses de poumons.
Il y a encore à Strasbourg quelqu'un qui les fait.
Il y a quelqu'un qui en fait aussi du côté de Turquie.
Et on va en parler justement. Voilà. Évidemment.
Mais ce que je voulais juste dire, c'est que tout ça, c'est vrai que ça s'est perdu un peu.
Mais il y a de la transmission avec Benjamin quand même, hein, c'était ça.
Oui, il y a de la transmission.
Il est vécu dedans, il est prêt à reprendre maintenant les traditions familiales et en incorporant un peu d'innovation peut-être.
Oui, non, je pense pas qu'on puisse innover dans cette cuisine. C'est une cuisine
qui c'est
pas là qu'il faut innover. C'est là, il faut laisser les choses, elles sont bonnes telles quelles. Il faut le laisser. Après, il faut peut-être aussi faut transmettre. Et l'idée était de transmettre par rapport à la cuisine judéo-alsacienne. Et ben, elle mérite de citer comme la cuisine asiatique. Après tout, c'est peut-être meilleur de manger du.
C'est du patrimoine. C'est exactement.
Oui. Alors, il est peut-être meilleur de manger des pickle-fall que des insectes grillés au niveau protéines.
Tant qu'à faire, autant manger du pickle-fall. Jacques Gaismard, Thierry Ross, on est en direct avec la communique. On parle
depuis
dégustation
le café,
depuis le café Broglie. Jean-Noël Dron, que nous saluons et que nous remercions pour son hébergement. Chose importante, là on se délecte de souvenirs d'enfance, de souvenirs et de saveurs. Il y a, et vous ne le voyez pas, chers auditeurs, mais je peux vous dire que nous avons là un plat de pickle-fly juste extraordinaire. Et plutôt que de vous en parler, d'abord, on va commencer tout de suite les choses sérieuses. Tiens Thierry, prends un petit morceau, goûte ça. On fait l'abrara de ce magnifique pickle-fly. Et nous allons évidemment, au travers de ce pickle-fly, parler de la semaine de la cuisine judéo-alsacienne du 2 au 8 mars au Flory, qui est donc votre restaurant Jacques Gaismard, à Colmar, d'après les cahiers de recettes de vos grands-mères. Alors,
on ne parle pas la bouche pleine. Là.
On ne parle pas la bouche pleine. C'est juste extraordinaire.
Juste un petit commentaire sur le pickle. Il est juste parfait. Ni trop salé.
Merci.
Il est rosé. Sel nitrité, salpêtre.
Il est sec.
Excellent. Là, c'est sel nitrité. Hein.
Non.
Salpêtre.
Oui.
Salpêtre pur. Parce que
j'ai deux bouchées en fait.
Quel bonheur. Alors, on va parler bien sûr du pickle flash. On va parler de la semaine de la cuisine judéo-alsacienne, d'après les cahiers de recettes. C'est une semaine complète dédiée à la gastronomie, mais pas que. Des dégustations, de la musique, des rencontres pour tous. Et c'est la quatrième semaine de la cuisine judéo-alsacienne.
Quatrième,
parce que c'est ce qui est marqué sur la publicité. Hein. Deux grands-mères dont vous allez nous parler, Jacques Gaismard, Nini, originaire de Mulhouse, et Mémé Aline de Balbronne, toutes deux d'excellentes cuisinières qui ont donné le goût de ces délicieux produits, authentiques, plats transmis et ce savoir-faire unique. Comment est-ce qu'elles étaient ? Comment est-ce que c'est venu cette idée de festival de programmation de la cuisine judéo-alsacienne, Jacques ?
Alors, je dois la première idée, je la dois à Gilles Pudlowski, qui était tombé amoureux de mon pickle et de mon pastrami, et qui m'a un peu poussé. Et derrière ça, j'ai eu un aiguillon, Mireille Israël.
Que nous saluons aussi, évidemment, tout comme Gilles.
Un grand bonjour, Mireille. Et Monique Lévy-Cheyenne, qui ont bossé avec moi la première année, et on a fait une semaine du pastrami. Ça a rencontré un tel succès, et on a eu de la demande, et puis on a continué. Et aujourd'hui, mais c'est l'envie de faire découvrir, et puis l'envie de repartager tous ces plats avec des gens qui ont plus... qui cuisinent plus ce genre de choses, et quand je vois le plaisir que ça peut faire autour de moi, je me suis dit on va le transformer en annuel, quoi. Après, on a des demandes également pour dans l'année de groupes qui se promènent, etc. Mais c'est vrai que c'est la Madeleine de Proust, c'est les souvenirs d'enfance.
En fait, c'est des souvenirs. Oui. Vous touchez donc à l'émotion et aux souvenirs, et ça, c'est extraordinaire. Alors, on a le pickle flash, bien évidemment, mais pas que ça. Les mots knepflush, les coudois farcis, la poitrine de veau farcie de Mémé Aline.
Oui.
Qu'est-ce qu'on a encore ? On a les Grombert Kugel, bien évidemment.
Le
Yiddish Burger, alors ça, il faut que vous nous expliquiez ce que c'est. La choucroute Yiddish, les Lungerwurst, évidemment.
Ouais.
Et le Scholletokop.
Les coudois
farcis, mais quel régal. Quel bonheur. Alors,
est-ce qu'on trouve la traduction sur Google Traduction ?
Thierry, prends encore un peu cet incroyable pickle.
Ce qui manque là, c'est quand même un petit cornichon avec.
Oui, un petit cornichon avec.
Un petit peu de réfort, comme
je dis. Et un coup de réfort. Et alors, il est coupé fin, ce pickle. Ça, c'est un morceau de poitrine. il n'est pas saumuré, il est salpêtri, donc c'est sale sec.
On le met en trempage dans une saumure qui est faite à base de gros sel, de sucre et de salpêtre. Et puis ensuite, il est cuit au bouillon. On n'a pas changé la recette. C'était la recette que... C'est comme ça que j'ai appris à le faire.
Il est long en bouche.
J'ai appris à faire comme ça et puis j'ai continué quoi.
Il faut pas
changer, je veux dire, pas là que bien sûr qu'on peut le moderniser, y rajouter des phosphates, des machins, des trucs.
Il n'y a pas de bestiole comme ça là-dedans. On prend les informations dessus, c'est du sel nitrité, de la viande. Hein, c'est
absolument.
C'est à peu près tout et puis c'est tout. Voilà. Alors ce magnifique pickle, combien de temps il faut pour faire un pickle, Jacques Gaismard? Combien de temps ça prend marinade du pickle? Combien de temps de préparation en amont, hors temps de cuisson?
Il y a 10 jours de salaison, tout doucement.
Sûrement.
Absolument, il n'y a rien à...
On laisse faire le temps.
Voilà, il faut le temps.
C'est
ensuite,
ce qu'on avait autrefois, le temps.
Absolument, mais tous nos plats, tous ces plats yiddish sont des plats qu'on préparait la veille, qu'on faisait cuire tout doucement dans le karlof ou dans le four, dans la cuisinière à bois. Le kugel, moi chez ma grand-mère, je me rappelle que le kugel, alors le vendredi, on le préparait, le kugel, il commençait déjà à s'engueuler parce que quand on le retournait, il risquait de casser. T'as pas oublié de mettre les petits pieds en dessous en oignon pour qu'il n'accroche pas, etc. Et puis il cuisait toute la nuit et le Shabbos à midi, on avait le kugel avec des pois. Et en tant que gamin, on n'avait surtout pas le droit de boire de l'eau après. Parce que c'est vrai que c'était à l'époque, c'était... Non, c'était pas ça, c'était le gras, ça avait peur qu'on ait eu de saloperie de digestion. Donc on mangeait le jour où on mangeait du kugel chez mes grands-parents, on avait droit de la tisane.
Juste de la tisane.
Pas mon grand-père.
Un peu comme au Japon. Hein.
Voilà, c'est ça. Mais tous ces plats sont des plats qui sont des plats de... C'est des plats qui tiennent au vent, quoi.
Ah oui, qui tiennent, c'est des vrais. En fait, c'est aussi des plats pauvres. Ils sont pas. C'est modeste, c'est pas bourgeois, quoi, comme.
Non, c'est pas des plats bourgeois. C'est des plats dont
la
confection ne coûte pas très cher. Il faut juste du temps. Puis il faut attendre pour.
Alors, c'est ça le luxe. Il y avait des plats saisonniers. Est-ce que. En plat. À Pessah, on mange
la langue ou la carpe. Oui, la langue. Alors là, c'était pour revenir à notre histoire d'avant. C'est vrai que si la langue, si nos bêtes avaient eu 5 ou 6 langues pour Pessah ou pour rechercher un casque,
ça aurait été bien.
Et 12 pieds, absolument. Alors maintenant, le gros problème pour faire un certain nombre de ces plats, on a été obligé d'un peu arranger, parce que faire de l'estomac farci, trouver des estomacs aujourd'hui, trouver des poumons cachers, c'est pas évident du tout. Parce que la technologie est passée par là, les services vétérinaires sont passés par là, et c'est plus du tout. Aujourd'hui, on fait plus les kugels, c'était fait avec du maigre, du gras de. De bœuf, mais
oui, ça on s'en trouve plus, hein, un gras de bœuf.
Pour en trouver, il faut
se lever tôt.
Voilà, ou alors il faut compromettre toute la chaîne d'abattage pour arriver à avoir ce qu'on veut. Donc on a remplacé par des gras de l'arsenic.
Je précise, cette semaine de la cuisine judéo-alsacienne n'est pas stempfelisée, n'est pas labellisée cachère, mais elle est dans le kosher style, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la certification, voilà. Mais elle est en tout cas tracée.
Nous sommes plus dans le culturel.
C'est une semaine culturelle.
C'est de la transmission culturelle.
C'est important pour nos auditeurs qui pourraient nous écouter qu'on n'est pas en train de promotionner une halakha quelconque ou un bet din, hein, c'est important. Mais par contre, il n'y a pas de certification, mais vraiment le traditionnel culturel. Ceux qui, comme nous, consomment des choses qui sont pas labellisées complètement cachères, s'y retrouveront, c'est les plus observants, pas. Voilà.
C'est
important pour la transparence.
On n'est pas sur ce registre.
Alors, il y a un programme très très varié qui commence dès le lundi 2 mars et qui se termine le dimanche 8 mars avec des lectures, des programmations artistiques, dégustation.
Il y aura des lectures, il va y avoir également
des conférences aussi.
Une conférence de mon ami Jean-Marie Schmitt, qui était le directeur des affaires culturelles de la ville de Colmar, qui est historien et qui va nous parler des grandes familles juives à Colmar au 19e et de différentes anecdotes qu'il a trouvées. On va également. On finira le dimanche. Le dimanche, on a pris l'habitude de finir en apothéose et on fait un brunch.
Donc, voilà. Sympa, sympa. Les chics ou flashtics.
Je pense qu'avec Jacques Gaismard, notre invité aujourd'hui, il sera très clairement flashtick. Vous évoquez, Jacques Gaismard, mémé Aline et grand-maman Nini. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Mais avec, oui.
Et de leur cahier de recettes, parce que c'est de là
avec,
que tout est parti
avec
finalement.
Avec beaucoup de nostalgie d'ailleurs, parce que alors, mémé Aline, c'est Balbron. C'est toute la tradition, fille de boucher, elle est partie avec... Elle nous a appris à faire le Grombergkugel, qui est plus un plat d'ailleurs barinois qu'orinois. C'est pas du tout notre tradition dans le Morin. En fait, des Grombergkugel.
Dans le Barin.
Ouais, absolument, c'est barinois. Et puis la charlotte aux pommes, tout ça, c'est des souvenirs parce que moi je la vois avec son tablier en train de cuisiner. Elle cuisinait je ne sais combien de temps pour qu'on puisse. Et on se retrouvait à la table. La table a toujours été un endroit de fête. Alors quand ma grand-maman Nini, elle a passé toute sa vie dans la boucherie avec mon grand-père. Et habitant juste à la maison à côté, j'étais souvent là-bas. Et puis au reste, c'était la carte, c'était le kugel, c'était toutes ces bonnes choses. Et puis rien qu'à l'odeur, avant de rentrer chez elle, je savais déjà
ce
qu'on allait manger à midi. Et alors, mais au niveau de l'aventure traditionnelle, des choses qu'on rencontre dans la vie qui sont rigolotes, un jour
on aime les traditions et les choses rigolotes.
Ouais, hein. je suis parti à Édimbourg, Écosse, et puis on est allé se promener, on est allé jusqu'au Loch Ness. Et au Loch Ness, on va dire, il faut absolument goûter la spécialité du coin, c'est du haddish.
Du haddish, hein.
Ouais,
là. Du réfort.
Non. Haddish, c'est de la panse de brebis farcie. Et j'ai goûté. Et je suis parti d'un an à le rire. Et puis, mais tous les gens qui étaient autour de moi, les copains, ils me disent, mais pourquoi tu rigoles? Je dis, mais je connais, ce n'est ni plus ni moins que du
l'estomac
farci.
De l'ougavirch.
Nous étions retour au studio avec le radish qui était donc de la
ce n'est ni plus ni moins que des poumons et des cœurs d'agneau. Et l'assaisonnement change un peu, mais le goût est le même.
Le goût est le même, hein, incroyable. Alors, il y a évidemment ça, c'était pour la petite anecdote écossaise. Retour en Alsace avec d'autres produits que vous affectionnez et qui sont évidemment la carte de Fleury pendant, je le rappelle, cette quatrième scène de la cuisine judéo-alsacienne. Au programme donc du 2 au 8 mars au Fleury à Colmar, il y a entre autres choses une recette moi que j'adore plus que tout, mais je crois que Thierry, toi aussi, c'est les Motzknepfleisch. Moi je dis Motzknepfle,
Matzebons,
c'est
américain.
Chez nous c'est Motzknepfle.
Motzknepfle.
Voilà, alors chez Gaismard on les fait un peu molles. On les aime bien un peu molles. Et puis on les fait
avec la graisse d'oie.
Avec la vraie graisse d'oie. Et
l'élément principal.
Et du mozzarella de chez Heumann à Sulz.
Alors voilà,
là j'en profite si je peux.
Un petit cul pour Isabelle.
Un petit coucou à Guy et à Isabelle.
Évidemment.
Voilà, Isabelle, donc.
Alors,
produit exclusif. Hein,
c'est intéressant d'ailleurs de votre collaboration parce que c'est une entreprise juive, c'est une entreprise qui faisait des produits cachers quasi exclusivement, puisque je pense qu'à l'époque ils avaient une production que pour Pessah.
Il y a toujours
et
une
c'est
production
une entreprise
que pour
qui a su, comme vous, Jacques, qui a su rebondir et exploiter ce kosher style en faisant, eux ils font surtout du diététique, mais en rebondissant et en trouvant une ouverture pour survivre. Parce que
leurs
concurrents ont disparu. Malheureusement.
Même qu'ils fleurissent, si je m'amusais à un jeu de mots pour être en relation avec Colmar.
Non, c'est vrai qu'eux ont pu rebondir et aujourd'hui la matza,
le pain azim,
la matzot est aujourd'hui un produit de grande consommation.
Et surtout
à
l'international, hein, surtout
absolument,
un gros développement international.
Alors à ce propos, vous avez un rayonnement international dans votre affaire?
Non, je n'ai pas un rayonnement.
C'est une clientèle locale.
Non, on fait beaucoup de local. Alors c'est... Je vais dire, on a rencontré, on en envoie effectivement un peu partout, on
c'est
en envoie
des réseaux.
Paris, on en envoie régulièrement Luxembourg, Belgique, etc. Et j'ai maintenant des clients qui s'arrangent pour être en Alsace au moment de la semaine la cuisine judéo-alsacienne pour pouvoir venir et puis...
Alors c'est chaque année.
Chaque année.
À la même époque.
À la même époque.
Oui, c'est un bon créneau parce que c'est à la sortie de l'hiver, avant les beaux jours. C'est
oui, et puis c'est aussi quelque chose qui parle aux gens, c'est la Madeleine de Proust. J'ai vu autour des tables des choses, des gens qui se sont lâchés, dont j'imaginais absolument pas leur, comment je veux dire...
Leurs origines.
Leur judaïté
Absolument, ni leur judaïté, ni leurs origines, ni quoi que ce soit. Un jour, j'ai reçu un monsieur chez moi, et on ne savait pas quoi faire à manger, et on a fait des motzak nefesh. Et au moment où la soupière est arrivée sur la table, qu'on a ouvert le couvercle...
Ses yeux se sont illuminés.
Non, il s'est mis à pleurer. Mais à pleurer à chaudes larmes.
Incroyable.
Et on se connaissait depuis très longtemps et je ne savais rien. Lui. Et là, il est arrivé à reprendre le dessus, il m'a expliqué le ghetto de Varsovie. Ils sont partis, ils sont allés vivre en Amérique du Sud. Il est revenu à Colmar dans les années 60-65. Il a fait toute sa carrière professionnelle sur Colmar. Il avait tout oublié, ou il l'avait largement enfoui au fond
de lui. C'est juste. Ouais.
Et ces petites boules de tapnefesh sont rappelées, ça a tout fait remonter. On a refermé la soupière.
Telles les boules remontent justement dans la soupe. Hein. Voilà. Elles sont cuites, ça.
Ouais,
la belle, symbolique est belle, hein, tout de même. Ouais.
On a refermé la soupière à la fin du repas et on n'a plus jamais parlé. Et j'ai compris après sa passion pour la musique klezmer et pour toutes ces traditions de musicales. Monsieur qui trempait dans la
au fronton de la synagogue de Strasbourg, il y a plus fort que le glaive et ton esprit. Là, c'est plus fort que la soupe et ton esprit. Et ton souvenir, en tout cas. Ça sera une occasion. Jacques Geismar, je rappelle, 4e semaine de la semaine de la cuisine judéo-alsacienne du 2 au 8 mars au Fleury à Colmar. Il y a bien d'autres recettes. Est-ce que vous seriez d'accord d'en partager avec une avec nos auditeurs? Je pense par exemple à la poitrine de veau farcie, qui figure aussi en bonne liste dans votre...
Que Dan fait divinement.
Ah oui, mais là je vais faire un peu de benchmark. Ou une autre, hein, si quelque chose...
Ah non,
que...
mais on peut parler de la poitrine de veau farcie.
Est-ce que c'est poche ou pas poche?
Ah, c'est poche.
C'est poche. Voilà.
C'est poche.
Poche
c'est
dans
poche.
Le nom.
Ouais. Et puis la poche, surtout, il faut demander à l'homme de l'art... De l'art, enfin,
de l'art,
au boucher.
Pas du lard, non.
Voilà, absolument. De l'art au boucher.
Une de vous faire surprise.
De vous faire une jolie poche sans trou. Sans trou, surtout.
Sinon, ça sort.
Voilà, sinon, ça sort de tous les côtés. Préparer une aiguille avec la ficelle pour pouvoir la refermer. Et puis, alors, on parle de quoi? On parle de la farce.
Ah, mais là, on va parler de la farce, évidemment. Allez, on parle de la farce.
Moi, je mets.
Le
dans
secret
la farce,
de la farce, parce que c'est voilà, ça, le truc.
Le secret, il est très simple. Le moins d'œufs possible.
Et surtout, ça sèche.
Voilà, parce que le blanc d'œuf, ça va lier, ça va sécher. Donc, pas d'œufs. Pratiquement, j'en mets un sur une poitrine. Donc, c'est juste pour lier un peu. De la viande hachée. Hein, donc, veau, bœuf, moi je mets. Ensuite, oignon, persil, ail, épices, sel, poivre, muscade, un peu de gingembre.
Un peu de gingembre, voilà.
J'en mets toujours un peu de gingembre. Mais c'est comme ça que j'ai appris. Hein, bon. Et surtout, un gros quignon de pain qu'on a trempé dans l'eau, qu'on essore et qu'on rajoute à la farce.
Ça, c'est le secret.
Voilà, c'est ce qui va lui amener un peu d'onctuosité. Ça va lui permettre de rester bien softique, on dit. Hein,
softique, oui, softique.
Pour les noms patoisants, juteux.
C'est ça, bien juteux, bien savoureux.
Voilà, ensuite, il faut la recoudre. Il ne faut pas trop la...
Pas trop la bourrer
parce que sinon ça va péter en... Enfin pardon, ça va éclater en
cuisine. On est dans la cuisine.
On est dans la cuisine, dans la vie
traditionnelle et donc on utilise les mots traditionnels. Alors, il y a une autre spécialité qu'on retrouve tellement rarement et qui est un véritable bonheur. C'est une petite bombe diététique. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? C'est les coudoua farcis.
Alors deux écoles, hein. Deux écoles.
C'est un peu la même taille.
Deux écoles, ceux qui les.
Deux écoles.
Bon.
Deux
écoles, ceux qui les fourrent la pomme de terre.
Avec la pomme de terre. Non
ouais, pomme de terre râpée et des oignons, un peu comme les gomberaku.
Gomberaku, donc oui, un peu comme des galettes de pommes de terre.
Voilà, il y en a qui les fourrent comme ça. Alors moi. Ouais, ouais, bon.
C'est tout un art, hein, de les remplir.
Ah, c'est du boulot. Hein. Et puis après, il faut les recoudre. Hein, pour il faut encore les recoudre et puis les faire cuire tout doucement.
Alors, comment ça... Donc, on peut mettre une petite farce, un petit peu comme une Grumbeer, Grumbeer aux saucisses.
Grumbeer... Oh,
là, j'assiste à un congrès de boucher cachère.
Mais...
On est deux. C'est
dans une cabine téléphonique, mais quand même.
Mais je crois que la date, il va falloir que tu prennes des,
oui,
des cours prenne d'Alsacien.
Des cours. Oui, parce que je sais plus comment on dit. Grumbeer aux bourges. J'ai du mal à revenir.
Absolument. Non, la même chose qu'on prend pour faire de Grumbeer à Kugel. Donc les pommes de terre râpées avec de l'oignon, persil, un peu d'ail, un peu de. Voilà, et puis on met ça dans le coup et on le referme et on le fait cuire au bouillon.
Ah, c'est cuit d'abord au bouillon.
Et après, oui, d'abord c'est cuit au bouillon et après seulement on le fait rôtir.
D'abord cuire au bouillon et ensuite rôtir.
Non, dans le bouillon, il faut jamais le, il faut pas que ça cuise à trop gros volume. C'est pas, il faut pas que ça boue.
Cuisson
douce.
C'est
ça, cuisson douce et longue, surtout longue. Toujours. Alors pour les toujours.
Jacques, tout à l'heure vous nous avez dit aujourd'hui la cuisine évolue vers le couscous, etc. Est-ce que vous avez élargi votre carte, on va dire, au changement de profil de la communauté?
Non.
Vous êtes resté judéo-alsaco.
Absolument, mais je suis un pur produit judéo. Oui, moi je suis alsacien pur sucre. Voilà, donc malgré que j'ai tout de même un quart de pied noir. Un quart de pied noir, puisque ma maman est née à Bonn en Algérie, d'un part pied noir et d'une maman alsacienne. Donc il me reste un quart, quoi. Donc on mange tout de même à la maison. Chez maman, on avait le couscous et quelques petites spécialités de là-bas. Voilà.
Très sympa. Et donc, vous avez des liens aussi avec la ville de Colmar, la ville de Turckheim, bien sûr. Est-ce que vous êtes dans des réseaux touristiques référencés à l'Office du tourisme pour cette qualité patrimoniale de la cuisine alsacienne?
Oui, on a des demandes également pour des groupes qui viennent de Suisse, d'autre part, etc., qui viennent pour des repas yiddish.
Bon. Alors, j'ai encore une question.
On en a nombreuses.
Quel est pour vous le dîner parfait?
Ça, c'est une super question. Pas un presque parfait, hein, le dîner parfait.
Dans cette cuisine-là, c'est simple. Des mots de sapnepflich.
En entrée.
Vous prenez des notes.
Avec un peu de Gehaltleber quand même.
Après, un peu de Gehaltleber avec un petit peu de
Ayensi.
Foie de volaille.
De volaille hachée. Avec des œufs durs, du persil et des
voilà,
oignons. Avec un peu de quoi?
Du Gehaltleber. Et du Ayensi.
C'est quoi?
C'est œuf et oignon.
Ah, œuf et oignon. Bon, Thierry, j'en ai encore un petit peu à la maison.
Mais j'ai une grand-mère, tu le fais très bien. Mais j'ai une grand-mère autrichienne qui le faisait parfaitement bien.
Voilà, et puis après, j'ai après un problème, moi, parce que...
Faut choisir.
Choisir, c'est renoncer.
Donc?
Ça, c'est grave. Alors après, j'hésite entre le pickle file, parce que j'adore ça, et l'ombre à verre.
Vous en laissez pas?
Non,
mais là on est toujours dans les entrées avec le pickle. Là, vous passez aux choses plus consistantes.
Pickle chaud servi avec une bonne salade de pommes de terre. Et puis là on a aussi mis à la carte l'année dernière. Ça avait été un énorme succès qu'on l'a laissé d'ailleurs pour la carte de toute l'année ou presque. C'est les cuisses d'oie fumées servies sur de la choucroute cuite à la graisse d'oie.
Pas mal.
Voilà.
Donc voilà. Et en dessert, on n'a pas parlé dessert.
Ah, alors
Charlotte au pomme. Voyons.
Apple Charlotte. Et puis avec le café, un morceau de tiémature de chez maman.
Ouais, ça ne peut pas s'acheter. Parce que si tu achètes un tiémature chez quelqu'un, tu te fais tuer par ta mère.
Absolument. Alors l'année dernière, nous avions fait, pour la dernière édition, un concours de tiémature.
Excellent. Que vous aviez organisé en...
Oui, on avait organisé un concours de tiémature.
Techniquement,
On
a eu une quinzaine de...
De mamies.
D'échantillons différents et nous avons...
Il faut juger la taille, l'épaisseur, diagonale ou carré.
Non, c'est surtout... Non, c'était pas ça. C'est
la consistance.
C'est la consistance et le goût qui était le plus important. Alors j'avais mis... On avait décidé que... Ma maman était le meilleur président de jury possible.
De toute évidence.
Et on l'avait mis de toute façon hors course, comme ça on était tranquille.
Parce qu'il est quand même extraordinaire, c'est que ce sont des... C'est un peu comme le Gerhard Leber, ce sont des recettes simples, traditionnelles, qui se transmettent maintenant depuis des générations, et qui sont toujours autant appréciées par les jeunes, et qui se l'approprient.
Un vrai plaisir. Mais oui, qui sont. Mais si on donne la recette on peut donner la recette à quatre personnes différentes, la même recette,
le même goût.
Ils n'arriveront jamais à faire la même, hein, c'est pas possible.
Ouais. Et puis on a tous nos madeleines de Proust, c'est effectivement celle de la grand-mère. Ma grand-mère qui était autrichienne faisait les les croissants sucrés en vanille, en pâte sablée.
Oui.
Non, ça je fonds.
Ma grand-mère dans les choses qu'elle a ramenées de mémé Aline.
Ah ben voilà, il faut que
de Valbonne, elle a ramené de ses années en Afrique du Nord, elle a ramené les couronnes à l'orange.
Ça c'est des petits bonheurs. Jacques Geismar, je le rappelle encore une fois, pour la 4e semaine de la cuisine judéo-alsacienne, c'est du lundi 2 mars. Au dimanche 8 mars, je tiens quand même à signaler à nos auditeurs qui ne peuvent pas voir ce qui vient de se passer, mais nous venons de terminer le dernier morceau de Picklefleisch, Thierry et moi.
J'étais pas prêt à en laisser une tranche.
Voilà, parce que vous ne l'avez pas vu à l'antenne, mais on s'est battu pour avoir la dernière, donc, mais dans un esprit de partage, de fraternité et puis d'amitié surtout, on l'a partagé. Et c'est absolument un véritable délice que de. C'est un peu surréaliste.
Et puis ça éveille des souvenirs.
C'est la madeleine de Proust. Alors,
En Israël, on retrouve votre cuisine.
Oui, mais...
Le pickle, essentiellement.
Le pickle, oui, mais qui n'est pas du tout le même.
Non.
C'est pas le même, il n'est pas cuit de la même manière. Il est, comment je veux dire, on a un peu industrialisé le process, mais...
Mais juste le process, hein, ça n'enlève rien à la qualité. On ne déroge pas sur ça.
Il y avait un vieux monsieur à Tel Aviv qui le faisait très bien, qui a fermé près du marché tout en haut vers Allenby. Malheureusement, il a fermé. C'était un monsieur très âgé qui devait venir d'Europe centrale.
À Paris, il y avait deux frères qui avaient rue à côté de là où il y a le Disney Store, là, sur les Champs-Élysées, la petite rue, qui avait un restaurant qui s'appelait La Boîte à Sandwich, qui étaient les frères Chic, qui venaient évidemment d'Alsace, et qui servaient un pickle-fly chaud. Avec la salade de pommes de terre.
Quand le pickle est chaud, on prend, par contre, on coupe les tranches plus épaisses. Hein.
Absolument.
Il y avait, tu te rappelles, Dan, avenue des Vosges, je ne sais pas si tu as connu ça, il y avait chez Shem Tov, un Lubavitch qui avait ouvert ça, et on se précipitait chez lui quand on était étudiant. Il faisait le pickle chaud dans la baguette bien croustillante. Allez, on va.
Je crois que c'est bientôt l'heure de l'apéritif. C'est surtout l'heure également de rappeler que pour réserver, sur cette 4e semaine de cuisine judéo-alsacienne avec Jacques Geismar au Fleury à Colmar, c'est au Fleury directement sur leflory@geismar-traiteur.com, directement par téléphone au 03 89 41 78 80. Vous retrouverez bien sûr l'ensemble de ces informations sur le site internet de Radio Judaïca Strasbourg.fr, www.radiojudaïca-strasbourg.fr ou le Fleury, leflory@geismar-traiteur.com.
Sinon, vous faites Geismar, Turquem, il n'y en a qu'un.
Il y en a qu'un.
Il y aura bien quelqu'un qui va vous répondre.
Ah, ça, il n'y en a qu'un.
Il n'y a pas le Jules Geismar, le Roto Geismar.
Ceux-là, ils sont.
C'est le Pickle Geismar.
Ben,
le
Pickle Geismar. ils sont tous à Winsenheim.
Voilà, c'est bien celui de Turckheim. Hein, je répète, nos auditeurs, c'est Geismar Turckheim, la semaine de la gastronomie. Il reste maintenant, en plus de déguster, cher Thierry,
à nous dire.
Godvor et bon appétit. Un grand merci, Jacques Geismar, d'être venu dans nos studios éphémères du Café Broglie. On remercie également Jean-Noël Dron pour son accueil ici au Café Broglie et ce magnifique pickle que vous nous avez offert. 4e semaine de la cuisine judéo-alsacienne, et vous retrouverez bien sûr toutes les informations sur le www.radiojudaica-strasbourg.fr. Merci beaucoup, Jacques Geismar.
Merci, Dan. Merci, Thierry. Merci de m'avoir donné la parole, tout simplement.
Et puis, il reste encore
vous
un petit
êtes, vous, va, êtes, vous êtes tous les bienvenus la semaine
du 2 mars.
Du 2 mars.
On fera le détour.
Merci beaucoup et un très bon appétit à tous. We'll be right back.
communiquer. Communiquer.